Oh, bien, viento, Emmanuel. Amén. Tournons dans Jean chapitre 14. Vous connaissez bien ce passage, Jean 14, où Jésus dit, il dit que votre cœur ne vous trouble point, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais, je vais vous préparer une place, et si je vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher. C'est une promesse formidable de la part de Jésus. Bouddha n'a pas fait une telle promesse, Mohammed non plus, Confucius non plus. Nous remarquons que la prophétie, c'est unique à la parole de Dieu. On ne trouve pas ça dans le Veda, on ne trouve pas ça dans le Coran, on ne trouve ça dans aucun des écrits religieux du monde. La prophétie est aussi unique au Messie. Il n'y a pas de prophétie pour Bouddha, il n'y a pas de prophétie pour Krishna, il n'y a pas de prophétie pour Mahomet, il n'y a pas de prophétie pour Confucius, il n'y en a pas pour aucun d'entre eux. Mais la Bible en est remplie pour le Messie. C'est absolument unique. Et Jésus est aussi unique dans ses affirmations qu'il reviendra. Bouddha n'aurait jamais osé dire une chose comme ça. D'ailleurs, Bouddha est mort. Confucius est mort, Mahomet aussi, Jésus est vivant. Et il dit, je reviendrai. Qu'est-ce qu'il veut dire par je reviendrai? Il y a des gens qui parlent de la deuxième venue. Qu'est-ce qu'on veut dire par la deuxième venue? Il y a deux étapes, en fait, deux retours. Et je crois encore là, Jean-Claude, je ne comprends pas tout à fait ce qu'il dit en français, mais je pense qu'il a parlé de la différence entre l'enlèvement et la deuxième venue. À l'enlèvement, Christ vient pour son épouse, pour ses saints, pour les amener avec lui. À son deuxième retour, il revient avec ses saints, pour Israël, pour sauver Israël. Je ne pense pas qu'il a lu le verset dans Jude, mais je ne me souviens plus le verset exactement dans Jude, mais Jude dit, Kenoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en disant, « Voici, le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exécuter le jugement. » Des myriades, ça veut dire beaucoup. Et dans Ésaïe, chapitre 14, Zacharie dit, « Lorsque ses pieds toucheront la montagne des Oliviers, » Qu'est-ce qu'il a dit là? Qui est-ce qu'il ramène avec lui lorsqu'il touche la montagne des Oliviers? Il amène ses saints avec lui. S'il amène ses saints du ciel avec lui, il faut qu'il les ait d'abord amenés au ciel. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'enlèvement. Les saints vont au ciel avec Christ et ensuite nous revenons avec lui dans notre corps glorifié, avec les armées du ciel pour exécuter le jugement et pour établir son royaume sur cette terre. Tournons maintenant dans Matthieu 24. Aussitôt qu'on dit ça, il y a deux venues, l'enlèvement et ensuite le retour et la parousie, et il y a sept ans entre les deux, je pense que la Bible dit ça. Aussitôt qu'on dit ça, les gens ont tout de suite une objection. Et ils disent, montrez-moi dans la Bible un verset, un chapitre où il est dit qu'il y a deux retours. L'enlèvement et ensuite la parousie. Comment répondriez-vous à ça? Pouvez-vous me montrer un verset où il est dit qu'il y a deux retours, Dieu venu? Alors, comment pouvons-nous dire qu'il y en a deux? Il y a une réponse très simple à cela. Montrez-moi dans l'Ancien Testament un verset qui dit qu'il y aura deux venus. Est-ce qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit qu'il y aura deux venus? C'était ça le problème. C'est pourquoi les rabbins ont rejeté Jésus. C'est pourquoi même Jean-Baptiste a eu des doutes. Vous savez, Jean-Baptiste a eu des doutes. Quand vous y pensez, c'est surprenant. Jean-Baptiste, qui était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, il n'avait que 6 mois, il était un fœtus dans le ventre de sa mère, et il a sauté de joie lorsqu'il a entendu la voix de Marie qui a dit qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Jean-Baptiste connaissait sa mission. Les pharisiens lui envoyaient des messagers, lui disant, « Qui es-tu? Es-tu le Christ? » Il a dit, « Non, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, redressez son chemin. » Jean-Baptiste non seulement savait par révélation, mais il avait des preuves visibles. Vous vous rappelez, dans Jean chapitre 1er, il dit, « Celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit sous la forme d'une colombe, c'est celui. » Et il dit, « J'ai vu et je peux rendre témoignage. Celui-ci est le Fils de Dieu. » Il lui a rendu témoignage. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Comment est-ce qu'il pouvait venir à cette conclusion-là? Je pense que cela nous apprend des choses. Vous vous rappelez, il était en prison. Et il a envoyé 2 messagers à Jésus, disant, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Et il a posé une bonne question. « Es-tu celui qui doit venir? » Comment est-ce qu'il savait qu'il devait en venir à... Bien oui, les prophètes l'avaient dit. Alors, voyons qu'est-ce que les prophètes ont dit, et nous saurons s'il est celui qui devait venir. Mais Jean-Baptiste, à ce moment-là, il s'est embrouillé un peu. Pourquoi? Ben, il s'est embrouillé justement à cause de cette chose appelée le royaume. Et il y a beaucoup de confusion dans l'Église aussi là-dessus aujourd'hui. Qui va établir le royaume? Quand est-ce qu'il va venir? De quoi aura-t-il l'air? Et Jean-Baptiste, fondamentalement, c'était ça son problème. Il est en prison. Il est à la veille de se faire couper la tête, et puis ça n'a pas l'air de marcher. Jean-Baptiste dit, « Hey, est-ce que je ne suis pas celui qui t'a présenté à Israël? Je devrais au moins être premier ministre dans ton royaume. Je devrais au moins être ta main droite. Alors comment ça que je suis ici en prison, prêt à me faire couper la tête? Si toi tu vas régner sur le trône de ton père David, pourquoi est-ce que je ne suis pas avec toi? Ça n'a aucun sens. » De plus, ce gars Hérode, qui m'a mis en prison, il va falloir que tu le renverses, lui, si tu vas prendre le trône d'Israël, le trône de ton père David. Et c'est lui qui a les troupes. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec ta bande de disciples, des anciens pêcheurs? Comment vas-tu prendre son trône? Il ne savait pas quand le royaume viendrait. Il était embrouillé sur ce sujet-là. Pour vous montrer encore la valeur des prophéties, un verset dans Daniel, aurait pu remettre les choses claires dans l'esprit de Jean. Daniel 2, 44, on ne prendra pas le temps d'y aller, mais il dit, « Dans le jour de ces rois, de quel roi? Les 10 orteils de la statue, les mêmes que les 10 cornes des 4 animaux, dans Daniel chapitre 7. » Alors il dit, ces 10 cornes sont 10 rois. Alors, dans le jour de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais renversé. Quand est-ce que le royaume va être ramené? Quand l'Empire romain aura été renversé? Est-ce qu'il était divisé en dix rois de ce temps-là? Non. Mais ça dit dans le jour de ces rois. Le roi des cieux établira un royaume qui ne pourra jamais être renversé. Alors, c'est une des façons que nous savons que l'Empire romain doit être ressuscité, parce qu'il n'y a jamais eu 10 têtes dans l'Empire romain. L'Empire romain doit revenir avec 10 têtes sous l'Antéchrist. Vous savez probablement que le Club de Rome a divisé le monde en 10 régions il y a à peu près 20 ans. Et c'est encore divisé comme ça aujourd'hui pour les questions bancaires. Alors, Jean-Baptiste était un peu embrouillé dans la question du royaume. Il commençait à avoir des doutes. Et c'est ce qui a fait que les rabbins se sont moqués de Jésus. Si tu es le Messie, qu'est-ce que tu fais sur une croix? Tu devrais être sur le trône de ton père David. Et ils se sont dit, si on peut le crucifier, alors c'est fini, il ne peut certainement pas être le Messie. Mais ça, justement, c'était l'accomplissement de la prophétie. Il fallait qu'il soit crucifié. Alors le royaume s'en vient. Ne mettez pas Israël hors de question, là. Mais l'Église est une autre entité. L'Église et Israël, ce n'est pas la même chose. Et Dieu a un plan pour les deux. Il y en a certains qui pensent, comme nous l'avons déjà mentionné brièvement, que c'est fini Israël. Alors, si Israël est fini, alors la Bible n'est pas vraie. Parce que la Bible parle d'Israël qui revient dans son pays dans les derniers jours et toutes les armées du monde qui viennent pour la détruire. Et le Messie intervient du ciel pour délivrer Israël et pour régner sur le trône de son père David. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Ils regarderont celui qu'ils ont percé et ils pleureront comme on pleure sur un fils. Ils reconnaîtront leur Messie, enfin. Alors, si cela n'est pas accompli, alors la Bible n'est pas véritable, véridique. Alors, Israël existe encore, mais il y a une nouvelle entité qui a vu le jour, l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 32, Paul dit, « N'offensez ni les Juifs, ni les gentils, ni l'Église de Dieu. » Avant la croix, il y avait deux entités, les Juifs et les gentils. Après la croix, il y en a trois, les Juifs, les gentils et l'Église de Dieu. Lorsque les gentils entraient dans l'Église de Dieu, ça n'arrêtait pas, les gentils n'arrêtaient pas d'exister. Bon, alors quand les Juifs entrent dans l'Église de Dieu, ça n'arrête pas les Juifs d'exister. Il y a toujours la nation d'Israël pour laquelle Dieu a un plan. Nous n'avons pas lu dans Matthieu 24. Bon, on reviendra à ça plus tard. Alors, gardez votre doigt dans la page. Alors, notre frère a lu dans Actes, chapitre 1er, verset 6. Il faut que je vous donne ma traduction et toi, tu la traduiras. De quoi est-ce que Jésus parle, là? La fin du verset 3. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il avait le sujet à cœur au verset 6. Les apôtres lui demandent, « Seigneur, est-ce qu'il est temps pour nous de rétablir le royaume à l'Église? Est-ce que c'est ça qui est marqué? » Non, il a dit, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablira le royaume d'Israël. » Cela vous dit quelque chose de très simple. Le royaume n'avait pas été restauré, il le sera un jour. Il serait restauré à Israël et qui le ferait? Jésus. Maintenant, on va dans Actes chapitre 3 et il y a Pierre qui prêche son deuxième sermon. Les versets 19 à 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Vous voyez encore, là, il est question des saints prophètes. Vous voyez l'importance de la prophétie. Verset 25, vous êtes les fils des prophètes. Que dit ce verset-là? Que dit ce verset que nous venons de lire? Je ne sais s'il y en a parmi vous qui connaissez mon livre, La séduction du christianisme, mais il y a déjà 10 livres qui ont été écrits pour attaquer mon livre. Et un de ces livres a été écrit par un homme qui s'appelle R. Paul. Et le titre de son livre, c'est Gardez au ciel jusqu'à ce que... Et il prend ce verset ici. Il dit, voyez-vous, il est dit que Jésus est au ciel jusqu'au jour où nous avons restauré le royaume. Et lorsque l'Église sera restaurée, alors Jésus reviendra pour régner dessus. Ça, c'est un enseignement que vous allez trouver qui se répand dans le monde aujourd'hui, même parmi les évangéliques, que nous devons prendre le monde pour Christ. Nous devons capturer les médias, c'est pourquoi aux États-Unis, il y a ce gros mouvement en politique, les chrétiens qui se mêlent de politique, Jerry Falwell, la majorité morale, ou Pat Robertson, la coalition chrétienne, et nous allons mettre des évangéliques partout, et nous allons voir les mormons, les catholiques, les moonies, même les athées, pour autant qu'ils sont d'accord avec notre morale et qu'ils s'opposent à l'avortement et qu'ils sont prêts à avoir un gouvernement conservateur, alors nous allons tous ensemble voter. Et lorsque nous aurons notre homme qui est là, nous allons virer les États-Unis à l'envers et en faire un pays chrétien. La Bible n'a jamais parlé d'une chose pareille. Et ils ont l'idée que l'Église doit capturer le monde pour Christ, et lorsque nous aurons capturé le monde pour Christ et établi le royaume, alors Christ viendra pour y régner. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Il est dit qu'il est au ciel jusqu'au rétablissement. Il dit jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Lorsqu'il sera temps de faire le rétablissement, alors celui qui est le seul à pouvoir faire le rétablissement reviendra et il fera le travail. Alors vous retournez dans Actes chapitre 1, verset 6. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu restaureras le royaume d'Israël? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a choisi de sa propre volonté. Mais il y a encore la confusion. Alors tournons dans Romains avant de retourner à Matthieu 24. Romains chapitre 2, les deux derniers versets, 28-29, le juif, le juif ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alors, il semble bien que... keep on. Alors, il semble bien qu'un juif, ce n'est pas un juif physique descendant d'Abraham, mais un juif, c'est un juif spirituel. Il y a des gens qui nous disent ça. Alors, nous sommes les Juifs spirituels. Oh, une minute, là. Allons maintenant au chapitre 9. On pourrait en fait regarder les deux versets qui suivent. Les chapitres 1 et 2 du chapitre 3, les versets 1 et 2. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. À qui est-ce que les oracles ont été confiés? Aux Juifs spirituels? Non, à tout Israël. Et Dieu les condamne parce qu'ils n'ont pas obéi à sa parole, parce qu'ils n'ont pas gardé. Maintenant, allons au chapitre 9. À la fin du verset 3, il utilise cette phrase. Mes parents selon la chair, il dit. Qui sont Israélites? Et ça continue. À qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches? Et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement? Alors il y a un Israël qui n'est pas un Israël spirituel. Au milieu du verset 5, il est dit. De qui est issu selon la chair le Christ? Ce sont les membres de la famille d'Abraham en chair. Ce sont ses descendants par la chair. Ce sont les Israélites pour lesquels il prie. Et qu'est-ce qu'il dit? Au chapitre 10, verset 1er. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et il continue, il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Alors changeons cela et disons, mais Israël, ce sont les Juifs spirituels, et ça c'est l'Église. Alors Paul est en train de dire, le désir de mon cœur et ma prière pour l'Église, c'est qu'elle puisse être sauvée. Tiens, je pensais que l'Église était déjà sauvée. Il faut être sauvé pour en faire partie. Vous dites que l'Église a un zèle pour Dieu, mais sans intelligence, qu'ils ignorent la justice de Dieu, qu'elle essaie d'établir sa propre justice, et qu'elle ne se soumet pas à la justice de Dieu. Mais alors, ils ne sont pas sauvés, ils ne font pas partie de l'Église. Donc, il y a un Israël physique, il y a des gentils, et il y a l'Église. Mais personne n'héritera le territoire d'Israël à moins qu'ils aient cette même relation de foi avec Dieu qu'Abraham avait, et à moins qu'ils ne connaissent Christ comme leur Messie. Et quand est-ce que cela va se produire? Je crois que cela va se produire et je suppose qu'on pourrait avoir des différences d'opinion. Je crois que les Juifs, dans cet âge, et nous sommes d'accord avec ça, avant l'enlèvement, que les Juifs qui viennent à Christ maintenant font partie de l'Église. Ça, c'est la première résurrection. Je crois que durant la grande tribulation, il y en a qui viendront à Christ qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Parce que si vous avez entendu l'Évangile maintenant et que vous rejetez Christ lorsque nous sommes enlevés, je vous garantis que vous ne croirez pas que c'était l'enlèvement. Vous aurez un esprit d'égarement qui vous fera croire un mensonge, et nous en parlerons demain, si Dieu permet, qui pourrait très bien expliquer l'enlèvement. Vous ne le croiriez pas. Mais il y a ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Il y en a beaucoup qui viendront à Christ à ce moment-là et qui deviendront des martyrs, les grands martyrs de la grande tribulation dont il est question dans l'Apocalypse et qui crient. Ils sont sous le trône de Dieu dans l'Apocalypse et ils crient, « Oh, jusqu'à quand, Seigneur, tireras-tu vengeance de notre sang? » Et il est dit, « Pas tant que vos frères n'ont pas eux aussi été mis à mort et que tous ceux qui doivent être martyrisés le soient. » Par l'Antéchrist durant cette période de la grande tribulation, seulement alors serez-vous ressuscités et il y aura la vengeance pour votre sang. Alors je crois que les Juifs, jusqu'au moment de l'enlèvement, les Juifs qui viennent à Christ, comme tous ceux qui viennent à Christ, là, font partie de l'Église et ils font partie de la première résurrection. Au chapitre 20. Mais il y a ceux qui seront vivants. Jésus dit, « Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. » Paul dit dans Romains 11, « Tout Israël sera sauvé. » Est-ce qu'il veut dire tous les Juifs qui ont vécu sur la terre au travers de l'histoire? Non. Il veut dire tous les Juifs qui seront là au moment où Christ vient au secours d'Israël. Zécharie 12, 10, « Ils verront celui qu'ils ont percé, et ils reconnaîtront, et ils pleureront, et ils croiront. » Et la nation, en un jour, une nation naîtra et elle saura qui est son Messie. Et ceux-là sont ceux qui entreront dans le royaume. Les Juifs qui viendront à Christ avant cela, qui sont tués pour leur foi, sont dans l'Église. Mais ceux-là sont vivants lorsque Christ revient et c'est eux qui entrent dans le royaume et Christ règne sur eux de Jérusalem en même temps qu'il règne sur le monde entier. Et cela nous amène à un verset intéressant. Retournons maintenant. Où est-ce qu'on était? Matthieu 24. On revient finalement là. Et il y avait un verset qui a... Je ne suis pas un expert dans la Bible. J'étudie ma Bible à genoux depuis plus de 50 ans. Sachez, il y en a de vous êtes même pas aussi vieux que ça, alors j'ai appris des choses avec lesquelles je peux peut-être vous aider. Mais vous devez décider par vous-même ce que la Bible dit. Ne prenez pas ma parole. Au verset 34, il y a un verset sur lequel il y a beaucoup de controverses. Verset 34, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Il y a deux théories principales pour interpréter ce verset. Il y a ceux qu'on appelle les prétéristes. Ils disent que tout a été accompli, tout ce discours-là, le livre de l'Apocalypse, tout ça a été accompli avant l'année 70. Néron était l'antéchrist. Il y a trois professeurs à Moody qui enseignent ça aujourd'hui. À Wheaton College, ils ont maintenant ôté de leur déclaration de foi le prémillénialisme. Ils ont ôté cela. Ce n'est pas important. On est en train de nier ces choses. Et ils disent, cette génération, ça doit être ceux qui vivaient au temps de Jésus, dont Jésus parlait. C'est ça qui est dit, cette génération. Une minute là. Je peux prouver que ça, ce n'est pas vrai. Retournez au verset 22 maintenant. Non. Lisons le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Si ça s'arrêtait là, et dit qu'il n'y en avait pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, alors on pourrait dire, ah oui, ça c'était la pire tribulation pour les Juifs. Les armées de Rome ont tué au moins 1 million de Juifs en 70 après Jésus-Christ. Joseph, dans ses antiquités, dit 1 190 000, quelque chose comme ça. C'était vraiment un massacre, c'était une tribulation. C'est de là que vient la diaspora. Alors ça doit être de ça que ça parle. Mais il continue et dit, et qu'il n'y en aura jamais. Y a-t-il eu une plus grande tribulation depuis ça? Et Hitler, il en a tué 6 millions, Staline. Les chrétiens qui ont été massacrés par Mao, et par Hitler, et par Staline. Il y a eu des tribulations bien pires que celle-là, alors ça ne pouvait pas être la grande tribulation. C'est à venir encore quelque chose de pire que le monde a jamais connu qui nous attend encore. Allons au verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Est-ce que cela s'est produit en 70? Non. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Est-ce que cela s'est produit en l'an 70? Bien sûr que non. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que cela s'est produit en l'an 70? Bien sûr que non. Ah, mais ça c'est un bon verset pour l'enlèvement après la tribulation parce qu'il est dit immédiatement après la tribulation, il va envoyer ses anges pour ramasser ses élus. Une minute. Il n'envoie pas ses anges pour nous dans Thessaloniciens, chapitre 4. C'est le Seigneur qui vient nous chercher. Et ce dont il parle dans Jean 14, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je viendrai vous chercher, je vous amènerai avec moi. Mais ici, les élus dont il parle, c'est Israël. L'Israël s'appelait les élus avant même que l'Église existe, et lorsqu'il revient pour Israël, tous ces Juifs qui ne sont pas présents en Israël à ce moment-là seront ramassés de tous les coins de la terre par les anges et ils seront ramenés en Israël, où le Messie régnera sur eux. C'est de cela qu'il parle ici. Mais c'est très clair qu'on peut trouver dans ce passage bien des choses qui ne se sont pas produites en l'an 70. Néron n'était pas l'Antéchrist pour bien des raisons. On n'a pas le temps de retourner jusque dans Daniel, mais rappelez-vous, là, il y a les 70 semaines d'années, et à la fin de 69, le Messie vient et il a été retranché. Alors pourquoi est-ce que la 70e semaine ne s'est pas terminée? Un autre 7 ans et tout était fini. Le Messie aurait dû régner sur son trône, le millénium aurait dû commencer, ça ne s'est pas produit. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas produit? Parce que Israël a rejeté son Messie. Et une nouvelle entité est apparue, l'Église. Ce n'est pas Darby qui a inventé ça, et moi je ne l'invente pas non plus, c'est dans la parole de Dieu. Ils peuvent appeler ça du dispensationalisme s'ils veulent, mais c'est dans la Bible. Et la Bible a dit qu'au bout de 70 semaines, tout sera terminé. À la fin de 69, le Messie est venu, et la 70e semaine ne s'est jamais produite. Le verset 27 dit, en parlant de l'Antéchrist qui vient, et il faudra en parler peut-être demain, il est appelé le prince qui vient, et son peuple détruira la ville et le sanctuaire. Et au verset 27, il est dit, et il fera une alliance pour une semaine. Si Daniel parle de 70 semaines, et nous avons déjà 69 de passé, et alors il dit que cet Antéchrist va faire une alliance pour une semaine. De quelle semaine pensez-vous qu'il parle? Il faut que ce soit la 70e semaine de Daniel. Mais au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance et il va faire cesser les sacrifices. Alors il est évident que l'alliance a à voir avec la reconstruction du temple et la restauration des sacrifices pour les Juifs. Et nous savons aussi que le temple doit être reconstruit parce que dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 verset 4, il nous est dit que l'Antéchrist s'assoira dans le temple de Dieu et déclarera qu'il est Dieu. Le temple sera rebâti, c'est l'Antéchrist qui permettra qu'on le reconstruise. Il fera une alliance d'une semaine et au milieu de la période, il va briser l'alliance. Il va tromper Israël, il va se tourner contre Israël. Est-ce que Néron a fait ça, faire une alliance avec Israël qu'il a brisé au milieu de la... Jamais. Je ne crois pas que j'ai besoin de vous convaincre plus ou de vous persuader. Je ne crois pas qu'il y en ait de vous qui croient que ça s'est déjà passé dans ce temps-là. Quoi qu'il y a de plus en plus d'érudits, soi-disant bibliques, qui croient ça. Maintenant, il y a une autre théorie. Non, ce n'était pas cette génération-là, mais c'est la génération qui est vivante au moment où Israël retourne dans son pays. Et dans une génération en dedans de cela, le deuxième retour se produira. Alors, je me souviens, j'ai connu Al Lindsay, je connais Al Lindsay depuis bien des années, 30 ans au moins. Et nous avions souvent des réunions dans notre foyer. J'ai mentionné un soir, nous avions à peu près 120 juifs qui étaient là dans notre salon. Et Al Lindsay s'est levé et il a tenu le livre La Grande Planète Terre. Ce n'était pas le vrai livre, ce n'était qu'une copie de présentation. Il était très fier, c'était son premier livre. Et je me souviens que de ce temps-là, nous avions des collants qu'on mettait sur les pare-chocs d'auto. Vous me suivez à vos risques parce que moi, je décolle quand l'enlèvement arrive. Alors, les gens étaient très... Alors, l'enlèvement, on fait une bonne équipe. Le deuxième retour serait 40 ans après 1948. Ça nous amène en 98, ôter les 7 années de la Grande Tribulation. L'enlèvement sera en 91. Et tout le monde était excité avec ça. Et je me souviens, dans ce temps-là, moi, je croyais que Christ peut venir. Je crois que Christ peut venir à n'importe quel moment. Il pouvait revenir n'importe quand dans l'histoire et j'attends l'enlèvement à n'importe quel moment. Mais je disais souvent de ce temps-là, j'ai des doutes qu'il puisse venir maintenant parce qu'il y a trop de gens qui l'attendent. Parce qu'il y a un verset ici qui dit, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il va venir un moment où on ne s'y attend pas. À moins que vraiment vous ne marchiez avec le Seigneur, et ça c'est intéressant, il faut revenir à ce passage-là d'un moment. Alors ça n'a pas marché. La génération qui a vu le rétablissement d'Israël, je ne sais pas si une génération c'est 40 ans, 50 ans, 60 ans, il y en a qui disent « Oh, ça peut être 100 ans ». Je ne vais pas attendre 100 ans pour savoir. En fait, je ne serai pas ici assez longtemps pour ça. Je m'attends à partir avant ça. Mais qu'est-ce qui nous reste alors? Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. De quelle génération parle-t-il? Jésus utilise le terme « génération de vipères », « génération rebelle », « génération désobéissante », « génération qui demande un signe », « génération qui s'est rebellée contre Dieu », »« qui a rejeté Dieu », »« qui rejette le Messie ». Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Et je crois que nous avons le texte de l'Écriture, Zacharie 12:10. Quand est-ce qu'Israël croira? Oui, il y a des Juifs qui viennent à Christ maintenant et nous ne devons pas oublier les Juifs en présentant l'Évangile. C'est d'abord pour les Juifs. Paul allait d'abord aux Juifs et ensuite aux gentils. Et nous avons besoin d'évangélisation parmi les Juifs. On les néglige trop. Mais ils viennent à Christ en petit nombre. Quand est-ce que tout Israël sera sauvé? Lorsqu'il revient, lorsque tout a été accompli, et alors ils le regardent, alors ils croiront, et pas avant ça. Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses se soient accomplies. Bon, revenons donc à ce problème. Il y a deux retours, l'enlèvement et la parousie. Alors, dis-moi où ça dit cela dans le Nouveau Testament. Tout le monde où ça dit dans l'Ancien Testament qu'il y a deux venues. Est-ce qu'il n'y a pas eu deux venues? Tous les chrétiens croient deux venues s'ils sont chrétiens. Que vous soyez pré-trip, post-trip, milieu de trip, à mille ou tout ce que vous voulez. Vous croyez que Jésus est venu une fois, puis vous croyez qu'il va revenir une autre fois, ou alors c'est un menteur. Il a dit « Je reviendrai ». Alors montrez-moi un passage dans l'Ancien Testament qui dit qu'il va venir deux fois. J'ai essayé de commencer de vous expliquer, tantôt c'était ça le problème. Eux pensaient que tout allait s'accomplir en une seule fois. et ils ne savaient pas qu'il y avait deux venues. Comment est-ce qu'ils auraient pu savoir qu'il y avait deux venues? Très simplement, la même façon que nous savons qu'il y a deux venues. C'est qu'on ne pouvait pas mettre dans un seul événement tout ce que l'Ancien Testament disait sur la venue du Christ. Prenons Ésaïe 53. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? Il est dit, il verra sa postérité, il prolongera ses jours, l'œuvre du Seigneur prospérera dans ses mains. Il est dit non, il est coupé du pays des vivants pour les transgressions de mon peuple. Mais Ésaïe 9 dit, et de son royaume, il n'y aura point de fin. Même Daniel disait, non, le Messie va être tranché, alors comment pouvez-vous établir un royaume qui ne finira jamais et être en même temps retranché du monde des vivants? Les deux choses ne vont pas ensemble, ça se contredit. On ne peut pas mettre ça dans un seul événement. Le Saint-Esprit disait, attention, il vient une fois pour être rejeté, il vient une fois comme l'agneau pour être mis à mort pour nos péchés, il revient une autre fois comme le lion de la tribu de Juda pour exécuter les jugements et pour prendre le trône de son père David. Il sera rejeté, oui, mais après, quand il reviendra, tout Israël croira en lui. Alors, le Nouveau Testament maintenant. Vous ne pouvez pas mettre les deux choses dans un seul événement, tout ce que le Nouveau Testament nous dit sur le retour de Jésus-Christ. Nous venons de le lire. Retournez au verset 44. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors, si vous êtes ici ce soir, je n'essaie pas de m'argumenter avec vous. Évidemment, je vous dis ce que la Bible dit, mais ça, c'est ce que tout le monde dit. J'essaie simplement d'être raisonnable. Prenons ce verset-là. Et supposons que vous croyez en l'enlèvement après la tribulation. On ne serait pas aussi nombreux que ça, mais on va dire, on est durant la tribulation, on est à la fin de la grande tribulation et nous sommes les saints qui restent. Nous avons dû manger dans les poubelles parce que nous n'avons pas la marque de la bête sur nous, la police de partout est après nous pour nous mettre à mort, tous les autres chrétiens ont été tués et nous sommes les quelques-uns qui restent. Voyez-vous, l'enlèvement après la tribulation, ce ne serait pas grand-chose, il ne resterait pas grand monde à enlever. Parce que la parole de Dieu dit que l'Antéchrist fera la guerre aux saints et que tous ceux qui ne se courbent pas devant lui seront mis à mort. Alors nous nous sauvons de la police, nous avons mangé dans les poubelles et nous sommes cachés ici quelque part dans le nord du Québec dans une petite grotte. Et alors là, il y a ce frère là ou ce frère là qui sort de temps en temps pour aller voir ce qui se passe et il regarde la télévision au travers d'une fenêtre CNN là, et dit « Ah, regardez !» Voilà l'Antéchrist qui est là dans le temple. Il dit qu'il est Dieu. Alors on vérifie dans la Bible, on dit, ah, ça y est, dans la main de la Bible. Ça, c'est ça qui est dit qui allait arriver, là. Et puis, ah, voyons, il y a les deux témoins, là. Ah, les deux témoins ont témoigné. Et l'Antéchrist amène les tanks et tout ça. Il ne peut pas les empêcher. Et il tue tous ceux qui s'attaquent à lui. Ils sont là pendant 3 ans et demi. Et alors on marque ça dans le pile, là, il les tue. Et alors ils sont là dans les rues pour trois couchés dans les rues de Jérusalem pour 3 jours et demi et le monde se réjouit. Et alors là ils sont enlevés au ciel. Ah voilà une autre affaire qu'on peut cocher, c'est comme il est marqué là. Le programme se suit et nous comptons même les jours, 1260 jours, etc. Et puis là Jérusalem est entourée par les armées du monde. L'Antéchrist est là aussi, les rois de l'Est sont là, ils sont tous là et tout va s'écrouler. Alors je dis, bon. Non, je crois pas que le Seigneur viendrait maintenant. Mais, allez, voyons, es-tu cinglé? Tu ne peux pas mettre ce verset-là qu'il viendra lorsque vous n'y penserez pas. On ne peut pas mettre ça à la fin de la grande tribulation. Il faut qu'il vienne il viendra alors à un moment où n'importe quel idiot sait qu'il s'en vient. Il viendra à un moment où même l'Antéchrist sait qu'il vient. Apocalypse 19, et l'Antéchrist va pour se battre contre lui. Donc ça, ce n'est pas venir quand on ne l'attend pas. Il va venir à un moment de paix. Allez dans Luc 17. Bon, il va falloir que j'arrête un moment ou l'autre. Luc 17. Vous connaissez le verset. Luc 17, verset 26. de 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Comment ça s'est passé au jour de Noé? La dernière chose qu'ils attendaient, c'était le jugement. Ils n'avaient jamais vu un jugement de Dieu. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils vivaient en paix, dans la prospérité, dans la tranquillité. Tout se passait comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il dit des jours de Lot? Les gens, ils vendaient, ils achetaient, ils plantaient, ils construisaient, ils se mariaient. Merci beaucoup. Se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage, ils faisaient des festins. Pouvez-vous voir ça à la fin de la grande tribulation? Vous ne pouvez pas voir ça à la fin de la grande tribulation. Déjà dans Apocalypse chapitre 6, il y a déjà le quart de la population terrestre qui est mort. Ça, c'est 1 milliard de personnes. Les rivières sont en sang, il y a des tremblements de terre qui font trembler les montagnes, qui font bouger les îles. Et à la fin de l'Apocalypse chapitre 6, les gens sans Dieu crient aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous de sa colère, de la colère de celui qui est sur le trône, de la colère de l'agneau. On ne peut pas dire que ça c'est comme dans les jours de Noé ou dans les jours de Lot. Alors Jésus vient à un moment où on ne l'attend pas. Il vient à un moment où on serait un idiot de ne pas l'attendre. Il vient à un moment de paix, où tout se passe de façon normale. Il n'y a absolument aucun dérangement. Non, il vient un moment où le monde est presque arrivé au bout de tout. Il y a la peste, il y a les tremblements de terre, presque toute la terre est détruite. Alors tout ce que je dis, vous ne pouvez pas mettre ces deux événements dans le même passage. C'est impossible. Il faut qu'il y en ait deux. Il vient pour son Église. Attention, ou sinon vous serez pris par surprise. Il vient lorsque vous ne l'attendez pas, lorsque personne ne l'attend. Ils vivent dans la paix et la sécurité, et il va aussi revenir au milieu de la guerre pour le jugement. Un, c'est l'enlèvement lorsqu'il vient chercher ses saints pour les amener avec lui. L'autre, c'est son deuxième retour avec ses saints, lorsqu'il va sauver Israël et régner sur la terre. Demain, peut-être, nous pouvons continuer un peu plus loin, si j'en ai le temps. Mais disons un mot sur cet antéchrist-là avant de nous séparer. Nous avons mentionné que il y a deux idées au mot « anti » dans le grec. C'est un préfixe grec. Comme je dis, je ne connais pas le grec, vous pouvez le vérifier dans votre concordance ou dans votre dictionnaire, comme moi je l'ai fait. Et vous verrez qu'il y a deux sens au mot « anti ».« Anti » veut dire « opposé », mais « anti » veut aussi dire « à la place de ». Un substitut. Et je crois que l'antéchrist s'opposera à Christ, en effet, mais d'une façon très diabolique. Rien de moins que ça ne serait pas à la hauteur du génie de Satan. Il va prétendre être Christ et il va être adoré par le monde. Si ça c'est le cas, alors qui sont ceux qui le suivent? Ce sont des chrétiens. Le christianisme va conquérir ce monde, mais ce ne sera pas le vrai christianisme. Ce sera le christianisme de l'antéchrist. En mon nom, beaucoup viendront et ils diront, je suis le Christ. Et ils préparent le chemin du plus grand trompeur, l'antéchrist. Nous allons vers un gouvernement unique dans le monde, une religion unique. L'apostasie dont notre frère a parlé, qui déjà est en train de se répandre, le grand mouvement œcuménique, et nous parlerons de ça demain. Laissez-moi vous donner un exemple du mouvement œcuménique. Le grand écuméniste aujourd'hui dans le monde, c'est le pape Jean-Paul II. Il est vraiment un écuméniste. En 86, en Assise, en Italie, il a rassemblé des leaders des 12 religions principales au monde. Et Jean-Paul II les a amenés là pour prier avec lui pour la paix. Et il a dit, nous prions tous le même Dieu. Et nos prières créent une énergie spirituelle qui va amener un nouveau climat pour la paix. Ça, c'est le bon langage du mouvement du Nouvel An. Mais qui était là? Il y avait les adorateurs de serpents. Il y avait les adorateurs du feu, les zoroastriens. Il y avait des spirites, il y avait des bouddhistes, des animistes, des musulmans, des hindouistes. Et il dit, nous prions tous le même Dieu. Et à cette occasion, il a permis son cher ami, le Dalai Lama, d'entrer dans la cathédrale Saint-Pierre. Pas de Rome, mais d'Assise. Saint-Pierre d'Assise. Et de mettre Bouddha sur l'autel. Et d'adorer. Et à cette occasion, il a permis son cher ami, le Dalai Lama, d'entrer dans la cathédrale Saint-Pierre. Pas de Rome, mais d'Assise. Saint-Pierre d'Assise. Et de mettre Bouddha sur l'autel. Et d'adorer, de faire la cérémonie d'adoration bouddhiste dans une église catholique. Ça, c'est vraiment de l'œcuménisme, c'est incroyable, et je pourrais vous donner de la documentation sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans ce mouvement œcuméniste. Ça prépare le monde pour l'antéchrist, qui prétendra être le Christ, mais ce sera un mensonge, ce sera un faux Christ, une fausse religion. Et lorsque vous voyez ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas difficile à imaginer. Une chose, en terminant, je crois qu'un des arguments les plus forts pour l'enlèvement avant la tribulation, je n'ai jamais entendu personne mentionner ça, mais je crois pourtant que c'est évident. Oh, il faut que vous me donniez une autre minute ou deux. Il faut retournons dans 2 Thessaloniciens, parce que quelqu'un a posé la question à table ce midi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et au verset 3, « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. » Alors les gens disent, vous voyez, l'antéchrist doit être révélé avant l'enlèvement. Une minute là, c'est comme de dire, laissez-moi vous dire, le dimanche ne viendra pas à moins que samedi ne soit venu avant. Et nous aurons la fraction du pain ce matin-là. Est-ce que je dis que nous allons rompre le pain avant dimanche? Je dis non, il va venir dimanche. Et c'est ce que ce verset dit ici. Ce jour ne viendra pas avant que soit venue l'apostasie. Et dans ce jour-là, le fils de la perdition sera révélé. Comme résultat de cette apostasie, après l'enlèvement, l'homme de péché sera révélé. Au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a quelque chose qui l'empêche de venir, il dit. Verset 7, car il faut seulement que celui qui le retienne ait encore disparu. Il y a quelque chose, quelqu'un qui empêche l'antéchrist de venir. Qu'est-ce qui empêche l'antéchrist de venir? Il va faire une alliance d'une semaine. Il va être révélé au tout début de cette période de 7 ans. Qu'est-ce qui empêche ces 70 semaines de commencer? L'Église. L'Église est présente sur la terre. C'est cela qui a empêché que les choses se terminent après la 69e semaine. Alors, quoi que ce soit qui a retenu la 70e semaine de se produire doit être ôté avant que la 70e semaine puisse s'accomplir. Et ça, c'est l'Église. Mais ce n'est pas seulement l'Église. C'est aussi le Saint-Esprit qui est dans l'Église. Mais qui que ce soit, et c'est une personne qui empêche l'antéchrist de venir, devait être là dans le temps de Paul, est encore là maintenant et sera là, donc ça ne peut pas être un homme. C'est quelqu'un qui a une longue vie, bien plus longue que celle des hommes. Il n'y a que Dieu qui peut retenir Satan, le Saint-Esprit. Alors lorsque l'Église est enlevée, le Saint-Esprit ne part pas, car le Saint-Esprit est omniprésent, il est partout. Il y aura encore des gens qui seront convaincus de péché, mais alors comment est-ce qu'il faut comprendre ça? Bien, dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, il est dit que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas glorifié. Ben, David avait le Saint-Esprit, mais David dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Alors, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu d'une manière sans précédent. Il est venu dans tous les croyants pour ne plus jamais les quitter, pour leur donner la puissance. Si nous étions là, nous reconnaîtrions l'Antéchrist et nous nous opposerions à lui. Mais le Saint-Esprit, d'une façon dont il n'a jamais été présent avant, va être enlevé avec la présence de l'Église. Nous serons enlevés au ciel et l'Antéchrist pourra alors être révélé. Si l'Antéchrist doit d'abord paraître, alors je n'attends pas Christ. Qui est-ce que j'attends? L'Antéchrist. vous ne vous attendez pas à Noël avant au moins l'action de grâce, parce que vous savez que l'action de grâce doit venir avant Noël. Alors si l'Antéchrist doit venir avant Christ, ben ça ne nous donne rien d'attendre le Christ. La prochaine chose qu'on attend, c'est l'Antéchrist. Mais il est dit, il est parlé de ceux qui attendent le Seigneur le verront apparaître pour leur salut. Ceux qui attendent ce jour, cette glorieuse apparence dans Tite 2.13, notre grand Dieu et Sauveur. Laissez-moi vous donner ce qu'est l'espérance bénie. L'Antéchrist vient et il va essayer de vous attraper, de vous mettre à mort, vous ne pourrez pas acheter. Si vous ne l'adorez pas, vous allez vous faire tuer. Mais si vous courez assez vite de la police et que vous réussissez à survivre jusqu'à la fin de la grande tribulation, vous allez être enlevé. Est-ce que ce n'est pas une expérience merveilleuse? Moi, j'appelle pas ça une expérience merveilleuse. L'espérance merveilleuse, c'est qu'il peut venir à n'importe quel moment et nous enlever. Maintenant, un dernier argument. Ma femme, elle dit, tu dis toujours que tu veux arrêter, puis tu n'arrêtes jamais. Ben, je fais ce que je peux. Supposons que l'enlèvement se produisait. Combien de gens disparaîtraient? Je ne sais pas combien. Il y a à peu près 1,1 milliard de gens qui se disent chrétiens dans le monde. Mais il y a à peu près 1 milliard de catholiques, 400 millions d'orthodoxes, et puis encore quelques millions de protestants de toutes les sortes, des luthériens, aux baptistes, aux charismatiques et tout ce que vous voulez. Ça donne à peu près 1,8 milliard. Combien là-dedans sont vraiment chrétiens, je ne sais pas, mais disons qu'il y en a 200 millions. Je ne pense pas que c'est trop conservateur. Peut-être 100 millions, 50 millions, je ne sais pas. Il y a bien des gens qui vont disparaître de la terre. Et il y a des gens qui vont le voir arriver, celui qui va être assis à côté de quelqu'un, ou celui qui va être dans l'auto avec un croyant, ou dans l'ascenseur, ou sur la rue, ou en plein milieu d'une conversation, tout, ils sont partis. Il y a de quoi devenir cinglé. Ça peut pas se produire, c'est impossible. Mais non seulement il va venir, il y a une confusion et un chaos, mais quelle sera la réaction sur la terre? La terreur! Une terreur atroce. Imaginez ça. Où est-ce qu'ils sont partis? Qui les a amenés? Des soucoupes volantes qui les ont kidnappés. Oh, ils croient ça aujourd'hui, les soucoupes volantes qui enlèvent les gens. C'est sur ça qu'on fait nos films aujourd'hui, la science-fiction. Ils emportent des esclaves. Alors, il y aura une terreur. Est-ce que ce sera moi le prochain? Comment est-ce que je peux empêcher cela d'arriver? Et il y aura une véritable terreur. Et vous savez ce que ça fait, la terreur? Ça unit les gens, la terreur. On parle du mouvement œcuménique et de l'unité qui vient. Cela ne sera pas suffisamment pour unir les musulmans qui sont prêts à vous couper la tête. Alors comment est-ce qu'on peut unir les musulmans et ceux qui se disent chrétiens? La terreur. Ce monde va être saisi par la terreur. Et je crois qu'au milieu de ça, il y a un homme qui va s'élever et lui, il a les réponses. Il dit, je vais vous dire où ils sont partis. Je suis en communication avec un être intergalactique. Vous pensez que c'est de la science-fiction? Nous avons envoyé le vaisseau spatial Voyager, et puis il y avait dedans un disque avec un message pour les extraterrestres. Et si vous êtes là, que vous recevez ce message, laissez-nous savoir que nous sommes ici et que nous voulons la paix. Et nous espérons qu'un jour, après avoir résolu nos problèmes, que nous pourrons nous joindre à la communauté intergalactique. Et Jimmy Carter, qui se dit chrétien, a dit, ça c'est notre grande espérance dans cet énorme univers. C'est cela qui m'a fait écrire le livre « Et le ciel alors ». Je pensais que notre espoir, c'était le ciel. Il dit « Non, notre espoir, c'est de nous joindre à la communauté intergalactique ». Les gens n'ont pas de difficulté à croire ça. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils croiront. J'ai rencontré des gens qui croient aux soucoupes volantes. Et ils disent que les frères de l'espace, comme ils les appellent, qui conduisent les soucoupes volantes, leur ont dit « Lorsque nous prendrons cette planète pour votre bien, pour empêcher un holocauste nucléaire, un écroulement écologique, tous ceux qui ne sont pas prêts à nous obéir, tous les rebelles, nous allons les amener à bord de nos soucoupes volantes et les amener sur une autre planète où on va reprogrammer leurs pensées avant de leur permettre de revenir sur la Terre. » J'ai parlé à des gens qui croient au Nouvel Âge et eux nous disent, vous savez, lorsqu'il y aura ce grand saut pour monter vers une sphère plus haute de l'humanité, tous ceux qui n'auront pas fait leur yoga, tous ceux qui n'auront pas fait leur méditation, tous ceux qui ne sont pas préparés spirituellement, ils vont être instantanément ôtés dans une autre dimension où leur karma devra le rattraper avant qu'ils puissent revenir sur la terre. Et ceux qui parlent du royaume, de bâtir le royaume, eux disent, lorsque nous avons établi le royaume sur cette terre, alors vous, là, les dispensationalistes, là, qui ne croyez pas à cela, vous allez être instantanément ôtés pour le jugement. Alors, je vous ai donné trois groupes de personnes qui s'attendent à ce que tout d'un coup, une masse de la population terrestre disparaisse, que ses ennemis disparaissent. Laquelle explication ils vont donner pour l'enlèvement, je ne le sais pas, mais je vous garantis qu'ils ne penseront pas que ce sont les bons qui sont partis. Quelqu'un m'a rappelé, quand j'étais petit garçon, j'étais assis à côté de ma mère à l'Assemblée, et aussitôt qu'elle allait s'élever, j'allais m'accrocher à elle. Parce qu'on m'avait enseigné le fameux verset que l'été est passé, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés, il y aura des pleurs et des grincements de dents parce que nous serons laissés en arrière. Et je me souvenais quand j'arrivais à la maison puis qu'il n'y avait plus personne, je m'inquiétais, ça y est, ils ont été enlevés. Non, c'est pas ça. Ceux qui resteront en arrière, ils seront tellement contents d'être débarrassés. Ils diront, ah, ces pauvres malheureux qui sont partis. Et il y a un homme qui va s'élever, il va dire, moi je sais où ils sont partis, et je suis en négociation avec un être intergalactique pour les ramener sur cette terre. Mais en attendant, prenez ma marque sur vous, et ça sera pour assurer que vous ne soyez pas enlevés. Je vous garantis que les gens vont faire la file pour recevoir la marque. Ils recevront un esprit d'illusion. Vous savez, quand un avion s'écrase dans les montagnes, que vous soyez bouddhiste, musulman ou hindouiste, si vous êtes le survivant de cet écrasement-là, vous allez unir vos forces dans la tragédie comme vous ne vous êtes jamais unis auparavant pour faire quelque chose après l'écrasement. Bien, je crois qu'il n'y a rien d'autre que l'enlèvement qui pourra unir le monde sous un seul homme, un gouvernement mondial, une religion mondiale, et tout d'un coup le monde est uni. Et ils ont de bonnes raisons de s'unir et de suivre l'Antéchrist. Je ne sais pas si c'est ça le scénario, mais ça a l'air que c'est la direction que ça prend. Jésus a dit, je reviens et je vous reprendrai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Ça devrait vraiment être le désir de chacun de nos cœurs ce soir. Père, merci pour ton amour. Seigneur Jésus, merci pour ta promesse. Puissions-nous t'aimer suffisamment comme l'épouse attend son époux pour le jour du mariage. Puissent nos cœurs être libérés des choses de ce monde et vivre dans l'espoir pour toi. Que nous puissions dire avec l'esprit et l'épouse, viens, viens Seigneur Jésus. Merci au nom de Jésus. Amen.